Le jour de la résurrection de Jésus, l'évangile de Luc fait référence à trois événements. C'est Luc chapitre 24, on aura l'occasion de le lire. Et ces trois événements sont les suivants. Le premier, c'est les deux Maries qui vont se rendre au tombeau. Et la Bible dit qu'elles vont s'y rendre tôt le matin afin de préparer le corps de Jésus. Et vous connaissez la suite. Les deux Maries vont se retrouver en face d'un tombeau vide, avec des anges leur expliquant ce qui s'était passé. Et une Marie qui, et là il faut regarder l'évangile de Jean, va se retrouver à parler avec un jardinier. Et pour se rendre compte que ce jardinier n'était autre que Jésus. Et ces deux femmes, ayant reçu cette révélation de la résurrection de Christ, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont retourner voir les disciples. Et là c'est le deuxième événement. Pierre et Jean vont courir au tombeau pour voir ce qu'il en est. Le premier qui va arriver, c'est Jean, plus jeune, va arriver devant le tombeau, va regarder le tombeau vide, et la Bible nous dit qu'il crut. Et Pierre va arriver un peu plus tard, va voir le tombeau, et finalement il ne va constater qu'un tombeau vide. Le troisième événement est en lien avec cela. Et ce troisième événement, c'est un passage que nous connaissons bien, que nous avons l'habitude de lire. C'est les disciples que l'on a appelés les disciples d'Emmaüs. Et ce troisième passage m'a interpellé pour bien des raisons, parce que Jésus ne s'est pas encore révélé aux apôtres dans sa résurrection. Certes, c'est vrai, il a parlé à Marie. Et ce qui m'a interpellé vraiment, c'est que Jésus va prendre le temps de discuter avec ces deux hommes. Va aller à la rencontre de ces deux hommes, avant même d'aller à la rencontre des apôtres. Et ça m'a interpellé parce que finalement, si je devais faire les choses dans un certain ordre, une priorité, j'aurais dit, si je devais me montrer à des personnes, il faudrait que je me montre en premier aux apôtres. Non, Jésus ne va pas faire ça du tout, puisque Jésus va se révéler aux apôtres plus tard. Alors, je trouve ce texte très énigmatique en soi, parce que d'une part, il y a cet ordre bizarre qui m'amène à dire, mais pourquoi Jésus est allé les voir en premier? Pourquoi eux, d'ailleurs? Parce que finalement, nous ne les connaissons pas bien. La Bible nous dit très peu de choses d'eux, et quand on regarde le texte, et c'est la vignette suivante, si elle va apparaître, on se rend compte que qu'est-ce que l'on connaît d'eux, finalement, les éléments sont faibles. La première des choses que l'on sait par rapport à ça, c'est qu'ils allaient en effet de Jérusalem à Emmaüs. Jésus étant ressuscité, a priori le dimanche matin, quelques heures plus tard, ces hommes se sont mis en marche pour rentrer chez eux dans la ville, le village d'Emmaüs. Le texte nous dit qu'il s'agissait d'une ville à 60 stades. Mais peut-être avant de rentrer dans les détails, j'aimerais peut-être, vous voulez bien qu'on lise le texte pour se rafraîchir. Allez, on y va. Luc chapitre 24, verset 13. Luc chapitre 24, verset 13. Voici ce qu'il nous est dit. Et voici ce même jour, et comprenez, il s'est passé tout ce qui s'est passé avant. Les Marie y sont allés, Pierre et Jean y sont allés, et plus tard, voilà ce qui nous arrive. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et notez bien ce verset. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Jésus va dire, ben quoi? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui nous délivrerait, qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici trois jours que ces choses se sont passées. Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous, et notez bien tout ça, que d'autres femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés aussi au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus dit, ô homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Verset 28, lorsqu'ils furent arrivés près du village, ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient assemblés en disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qu'ils étaient arrivés en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ce texte est énigmatique. En effet, pour toutes les raisons déjà que j'ai mentionnées, mais surtout, ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus prenne autant de temps avec des hommes qui ne vont jamais le reconnaître. Et quand ils vont le reconnaître, et c'est là que ça paraît encore plus fou, lorsqu'ils vont reconnaître qui est la personne avec qui ils parlent depuis des heures, Jésus va disparaître. Comme je disais tout à l'heure, on sait très peu de choses sur ces hommes. En effet, on sait qu'ils quittaient Jérusalem pour se rendre dans leur ville de départ, Emmaüs. Peut-être étaient-ils là lorsque Jésus, sans doute que Jésus, ils étaient là quand Jésus a été crucifié, ils ont vu leur maître en croix. Ce que nous savons aussi d'eux, et je voudrais qu'on affiche, ils étaient les disciples de Jésus, c'est l'une des premières choses qu'il nous est dite. Il nous est dit aussi que l'un d'entre eux s'appelait Cléopas, et on aura l'occasion de revenir sur lui ce matin. Et puis ce que nous lisons aussi, c'est que, et c'est ce que Jésus va leur dire en premier lieu, ils étaient tristes. Voilà ce que l'on sait de ces deux hommes. Et puis la Bible nous dit que, alors que ces deux hommes sont en train de quitter Jérusalem, et nous voyons bien la scène, ils commencent à discuter et ils s'éloignent peu à peu de Jérusalem, un inconnu se joint à eux. Alors en effet, nous savons qui est cet inconnu, c'est Jésus, mais pour eux, ils n'en ont aucune idée. Et cet inconnu vient se joindre à eux et commence à discuter avec eux. Le détail est important parce qu'il semble, et c'est la vignette suivante, il semble que Jésus ait commencé à marcher dès le départ avec eux. Lorsque Jésus quitte Jérusalem, ou lorsque ces deux hommes quittent Jérusalem, Jésus est avec eux. Et ils cheminent ensemble. Le texte est assez clair puisque c'est d'ailleurs Cléopas qui en parle au verset 28, il dit « Mais es-tu le seul qui a séjourné à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'y est passé ?» Cléopas comprend que Jésus, entre guillemets cet inconnu, a passé les quelques derniers jours à Jérusalem. Donc Jésus part de Jérusalem avec eux. Et la Bible nous dit, et c'est le verset plus loin, verset 28, que lorsqu'ils arrivent à Emmaüs, à ce moment-là, ils vont l'inviter à rentrer chez eux. Mais ce qui est particulier dans ce texte, c'est que finalement, Jésus va les suivre du début jusqu'à la fin. Sur le chemin d'Emmaüs, jamais Jésus ne va les lâcher. Et c'est important de comprendre cela parce que, et c'est là que ça devient très intéressant, comment peut-on passer autant de temps avec Jésus sans le reconnaître ? Et ça m'a interpellé parce que finalement, et c'est ce que dit le texte, verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et remarquez bien, ils ne vont le reconnaître qu'à la fin. Comment ont-ils pu passer autant de temps avec Jésus sans le reconnaître ? Et quand je parle de temps, on peut estimer que, comme nous savons, ça faisait à peu près 60 stades entre Jérusalem et Emmaüs, soit à peu près 12 kilomètres. Des gens normaux marchant à peu près 4 km/h, nous pouvons présumer que Jésus a marché avec ces deux hommes pendant 4 heures. Entre 3 et 4 heures. Et les choses n'en restent pas là puisque Jésus est rentré chez eux. Ils ont partagé un repas. Et je me dis, mais comment peut-on passer autant de temps avec quelqu'un sans le reconnaître? Alors je me suis imaginé tout un tas de choses. Je me suis dit, j'ai trouvé des raisons humaines qui expliquent le fait que ces deux hommes n'ont pas reconnu Jésus. Ils étaient tristes, ils étaient effondrés, ils étaient traumatisés. Ils ont vu le maître, celui qu'ils suivaient, celui qu'ils écoutaient, celui avec qui ils étaient tout le temps crucifiés en croix. Et puis finalement, l'impossible n'était pas du tout envisageable. Et quand bien même Jésus était avec eux. Mais lorsque je prends l'exemple de Marie, qui se retrouve quelques heures auparavant devant le tombeau. Et vous connaissez ce texte dans Jean, où Marie va se retrouver devant ce tombeau vide et elle va se mettre à discuter avec le jardinier. Et là, cet échange est vraiment magnifique. Et alors qu'ils sont en train d'échanger, et que Marie demande au jardinier, mais où as-tu mis mon maître? Où as-tu mis son corps? Et là, Jésus va dire ce mot, Marie. Et là, il y a comme un déclic dans le cœur de Marie, sans même voir qui est en train de s'adresser à elle. Elle comprend que cet homme qui est en train de lui parler, c'est Jésus. Alors, vous pourriez me dire, mesdames, et à juste titre, hein, c'est bien des hommes. Il ne faut pas trouver une goutte d'eau dans la mer. Au vu de l'exemple de Marie, a priori, on pourrait dire ça. Seulement, notre argumentation sur les raisons qui amènent les disciples à ne pas reconnaître Jésus tombe un petit peu à l'eau lorsqu'on réfléchit à ça. Parce qu'en effet, quand je dis que Jésus va passer près de 4 heures avec eux, il ne va pas passer simplement 4 heures à les écouter, il va aussi beaucoup leur parler. Et puis quand je parle de disciples, on pourrait avoir une idée un peu hasardeuse ou peu précise de ce qu'étaient ces hommes. Mais permettez-moi d'aller plus loin dans le détail de qui étaient ces hommes, parce qu'on peut comprendre qui ils étaient réellement lorsqu'on a lu le début du chapitre. Et je me suis permis avec vous d'étaler les différents événements qui se sont passés, parce que ces hommes étaient au courant de ce qui s'était passé. Ce n'était pas n'importe quel disciple. Il faisait partie de la garde rapprochée de Jésus. Alors certes, on en a des approximations, on sait qu'il y avait les apôtres, mais permettez-moi qu'une foule suivait Jésus constamment, des hommes qui étaient attachés à sa personne, et c'était des disciples, et ces deux hommes en faisaient partie. Comment le sait-on? Parce qu'ils étaient capables de décrire exactement tout ce qui s'était passé le jour de la résurrection. Ils savaient que deux femmes étaient allées au tombeau, ils savaient que Pierre et Jean y étaient allés, et d'ailleurs, ils s'identifient à eux. Lorsqu'ils décrivent les choses à Jésus, ils disent, mais deux femmes d'entre nous sont allés au tombeau très tôt le matin et ont vu le tombeau vide et puis ils poursuivent. Et puis deux hommes d'entre nous, ils sont allés. J'imagine une chose, lorsque Jésus va mourir en croix, bien des suivants de Jésus vont disparaître. Et ils vont disparaître très rapidement. À partir du moment où Jésus va être crucifié sur la croix, beaucoup de suivants vont se détourner de Jésus. Les attentes étaient tout autres. Et voyant Jésus mourir sur la croix, l'espoir est mort avec Christ. Et beaucoup sont partis très tôt. Seulement ces deux-là, ils sont restés 3 jours avec les disciples. Ils étaient au cœur de ce qui se passait. Ils savaient exactement, ils faisaient partie de la garde rapprochée de Jésus. Ils étaient les très très proches de Jésus. Alors certes, il y a les apôtres. Mais eux, c'était ses suivants fervents qui accompagnaient le Christ. D'où l'idée que le fait qu'il n'ait pas reconnu Jésus pour des raisons de circonstances ou d'état de cœur tombe un petit peu à l'eau. Parce que s'il connaissait si bien Jésus, difficile de passer à côté de lui après 4 heures de marche. Et quand on regarde l'exemple de Marie qui connaissait bien Jésus, le reconnaître instantanément, on se dit, il y a autre chose. Et en effet, il y a autre chose. Lorsqu'on prend le texte et on va l'afficher, Marc chapitre 24, verset 16, cette évidence, personnellement, je l'ai refusée. Et vous allez comprendre pourquoi. Le texte dit « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Et j'ai mis le mot empêché, le grec, et lorsqu'on regarde le grec, ça veut dire pas simplement que les circonstances ont empêché, mais c'est que quelqu'un a empêché ces hommes de voir la réalité. J'ai refusé de voir cette réalité. Parce que mes frères et sœurs, quand on va mal, quand on passe par les circonstances par lesquelles ces hommes passaient, leurs espoirs venaient de s'effondrer. Leur conviction dans la personne de Jésus venait d'exploser à la vue de leur Seigneur sur la croix. Ils étaient désorientés, perdus, découragés, tristes. Lorsqu'on est dans l'état de ces hommes, je peux vous dire que la chose dont on a le plus besoin, c'est de le voir. La chose dont on a le plus besoin, c'est de réaliser qu'il est à côté de nous. La chose dont on a le plus besoin, c'est qu'il se révèle à nous. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que si Jésus était apparu à eux, ça aurait été la fête. Ils auraient réalisé, mais justement, le problème est là. Et ce qui me perturbe, et ce qui m'a perturbé dès le départ dans ce texte, c'est que Jésus ne voulait pas être reconnu d'eux. Et vous savez quoi? Ça pose un souci. Parce que personnellement, au fond de mon cœur, je me dirais, je passerai par les moments par lesquels ces hommes passent. La seule chose que j'aurais besoin, c'est de voir Christ. La seule chose que j'aurais besoin, c'est de voir mon Dieu devant moi, me parler, me réconforter, de réaliser qu'il est vivant. Mais là où c'est bizarre, là où c'est énigmatique, c'est que Jésus choisit de les empêcher de le reconnaître. Ah mince! Et ça m'a posé problème à tel point que lorsque j'ai lu ce texte, j'ai cherché tout un tas d'excuses qui justifiaient que ces hommes n'arrivaient pas à reconnaître Jésus. Mais ces raisons tombent à l'eau et elles ne s'expliquent pas, si ce n'est par une volonté divine de ne pas le reconnaître. Ils étaient empêchés de le reconnaître. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que les Écritures nous disent. Ils ne pouvaient pas le reconnaître parce que Jésus ne voulait pas être reconnu d'eux. Alors là, on se dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Et peut-être au milieu de nous, certains peuvent être dans la situation de ces deux hommes, parce que le chemin d'Emmaüs, on pourrait tellement s'identifier à ces deux hommes au travers de ce qu'on vit, lorsque, au travers des circonstances de notre vie, beaucoup de choses s'effondrent, tombent à l'eau, des projets par moments, notre espoir, nous étions peut-être remis au Seigneur en disant « Mais Seigneur, tu vas nous assurer la victoire, Et puis finalement, les choses ne se passent pas comme on veut. » Et on a le sentiment que les choses se sont effondrées, mais en même temps, on a le sentiment que Jésus, où tu es? Et ces hommes-là étaient dans cette situation-là, même pire encore, parce que leur sentiment était encore plus profond, puisque non seulement leur espoir venait de disparaître avec Christ, mais ils avaient aussi le sentiment que Christ avait disparu tout court. Et peut-être dans un cœur ce matin, il y a ce sentiment-là, dans un cœur, dans une vie, qui dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Les choses s'effondrent. Et où tu es, Jésus? J'ai besoin de te voir. » Et lorsque je lis ce texte, j'ai une compréhension qui m'amène à dire que par moment, Jésus ne veut pas être vu. Et ce n'est pas les moments les plus simples de notre vie. C'est sans doute un des moments les plus compliqués, une période de leur vie, les plus difficiles, où leurs espoirs venaient de disparaître en une journée. Et je comprends leur désarroi. Je comprends le fait qu'à un moment donné, ils étaient en train de discuter. Peut-être ils étaient en train de dire « Mais j'y croyais. Je voyais en lui celui qui allait nous sauver. Je voyais celui qui allait nous délivrer. » Et peut-être certainement qu'un des deux a pu dire « Mais où il est maintenant? Où est-il ?» Les raisons qui ont poussé à Jésus à justement... à ne pas apparaître à leurs yeux sont multiples, mais il y en a une. Jésus va leur dire une vérité, mais ils ne l'ont pas entendue. Il va leur dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il leur a dit. Et à mon sens, ce passage-là est juste un temps préparatoire à ce qui doit arriver. Vous savez, la sagesse divine Par moments, elle nous échappe complètement, mais là, dans ce texte, je voudrais la révéler parce que Dieu sait ce qu'il fait. Lorsqu'il décide de ne pas apparaître aux yeux de ses hommes, il y a un plan, il y a quelque chose, il y a une volonté particulière. Et ce plan-là, c'est d'amener ses disciples à vivre une autre réalité, une autre relation avec lui. Jésus est en train de préparer son départ. Mais plus encore, il est en train de préparer ses disciples à son départ. Comprenez, jusqu'à présent, les disciples vivaient constamment avec Jésus. Ils savaient où le trouver, ils savaient où lui parler. Et leur relation avec Jésus était une relation homme à homme. Mais la dimension dans laquelle Jésus voulait projeter ses disciples, c'est celle qui devait arriver, celle qui devait amener les hommes à vivre non pas selon la vue, mais par la foi. Aussi, Jésus est sage, et notre Dieu sait toutes choses, et il prépare ses disciples à cette perspective. Il les prépare à réaliser qu'il ne sera plus là physiquement. Aussi, il ne permet pas à ses disciples de le reconnaître. Passer 3 heures avec lui, ils ne le reconnaîtront pas. Manger avec lui, ils ne le reconnaîtront pas. Discuter avec lui, ils ne le reconnaîtront pas. Pour la simple raison que Jésus est en train de les préparer à son départ. Il est en train de les pousser progressivement à rentrer dans une autre dimension de relation. Celle qui nous invite à vivre par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, Jésus sait ce qu'il fait. Il est en train de préparer son départ, mais il est en train aussi de préparer ses disciples à rentrer dans une nouvelle marche. Aussi, Jésus va plus loin. Et c'est ce que je voudrais partager simplement avec vous. Jésus est en train de les préparer à la marche de la foi. Et au travers de ce texte, il va leur donner 3 clés de la marche de la foi. Je voudrais vous les laisser ce matin. 3 clés qui va donner à ses disciples les moyens de ne plus marcher selon la vue, mais de marcher selon la foi. Et c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. C'est ce que Jésus nous appelle à vivre. 3 conseils ou 3 éléments qui vont donner à ses disciples de rentrer dans une autre dimension de relation avec Jésus. La première clé, nous l'avons, elle est écrite, je vais la partager. Luc chapitre 24, verset 15, nous la trouvons. Jésus fit route avec eux. Ce passage m'a interpellé vraiment fortement parce que il est une démonstration de ce que Jésus allait dire plus tard. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a trop peu d'amen. Qu'est-ce que Jésus veut dire à ses disciples ? Lorsqu'il fait route avec eux, il va leur montrer qu'il est là présent à côté d'eux, même s'ils ne le voient pas. Vous savez, spirituellement, des fois, on vit des choses remarquables avec Dieu. Par moments, on a l'impression d'être sur le chemin d'Emmaüs. Et peut-être beaucoup sont sur le chemin d'Emmaüs ce matin. Et ont le même sentiment de ces hommes que ces hommes avaient être abandonnés de Dieu. Et puis, vous savez, vous cheminez, et puis jusqu'au moment où vous arrivez à Emmaüs. Et une fois que vous arrivez à Emmaüs, là, c'est la révélation. Ah, je croyais que tu n'étais pas là, mais en fait, tu étais bien présent à mes côtés. Ce matin, peut-être beaucoup sont sur le chemin d'Emmaüs, et il y a comme une parole de Dieu pour ta vie. Jésus est avec toi, mais tu ne le vois pas. Jésus ne t'a pas abandonné, mais tu ne le sais pas. Et par moments, notre marche de la foi, c'est ça. Par moments, on a le sentiment que « Jésus, où tu es ?» Tout s'effondre autour de moi. « Seigneur, j'ai besoin de te voir. » Que fait Jésus ? Tu ne me verras pas. Mais pour autant, je suis là. Et sache que quand tu rejoindras Emmaüs, tu auras la révélation de ma présence à tes côtés. La marche de la foi, c'est aussi comprendre que par moments, Jésus ne se montrera pas, mais pour autant, il est bien présent à tes côtés. Les disciples d'Emmaüs sont dans une situation difficile. Et j'aimerais continuer un petit peu dans ce qui se passe dans leur cœur. Parce que beaucoup pourraient penser que Dieu les a abandonnés. Je vous expliquer pourquoi. Les disciples d'Emmaüs sont à mon sens des rétrogrades. Ils sont en train de quitter Jérusalem. Ils sont en train de quitter les frères. Ils sont en train de quitter le futur corps de l'Église, les disciples, les apôtres. Et vous savez, dans leur départ de Jérusalem, ils sont en train de fermer la porte au projet messianique qu'ils avaient mis dans la personne de Christ. Ils sont en train de mettre un terme à un rêve, à une espérance. Ils font le deuil de quelque chose. Et lorsqu'ils partent de Jérusalem, à mon sens, ils sont en train de s'écarter du projet de Dieu pour leur vie. Et ils le font parce que les épreuves sont là. Ils le font aussi parce qu'ils sont brisés intérieurement. Ils le font pour plein de raisons, comme beaucoup pourraient le faire ce matin. Beaucoup pourraient quitter la main de Dieu parce que les circonstances sont là. Ils les amènent à dire « j'en peux plus ». Et finalement, dans cette démarche d'Emmaüs, de ces hommes, de ces disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, je vois des hommes qui prennent la distance avec les choses de Dieu, qui prennent la distance avec une espérance qu'ils avaient en Jésus, qui prennent la distance avec la personne même de Jésus. Pourtant, mes frères et sœurs, Dieu leur a dit « je serai avec vous tous les jours ». Et il y a une réalité spirituelle juste fabuleuse. Jésus est à leur trousse. Parce que Jésus les aime suffisamment pour aller les chercher sur ce chemin qui les amène à Emmaüs. Et par moments, on a le sentiment qu'on tourne le dos à Dieu, mais Dieu ira te chercher. Il y avait une importance capitale pour Jésus d'aller chercher ces deux hommes sur ce chemin d'Emmaüs, car ils étaient en train de s'éloigner du projet de Dieu. Souvent, je me suis dit, mais pourquoi ces deux hommes ? Mais parce que Jésus a un cœur de berger, parce que Jésus les aime, parce que ses disciples, il les aimait particulièrement. Oh certes, on n'en parle pas dans les Écritures, mais je peux vous garantir que si Jésus a passé 4 heures après sa résurrection à être avec eux, c'est qu'il les aimait. C'est fabuleux de réaliser que Jésus est à leur côté, leur consacre 4 heures de son temps après sa résurrection. Très honnêtement, mais... Moi, je serais allé au banquet de l'agneau. Hein. Je suis ressuscité, allons chercher la gloire qui me revient de droit, montons au ciel, passons à autre chose. Non. Jésus est allé à la poursuite de ces deux hommes parce qu'ils s'écartaient, parce qu'ils s'éloignaient et parce que Jésus leur a dit « mais je serai avec vous jusqu'au bout ». Et il va les accompagner jusqu'à Emmaüs. Et ce que je trouve juste magnifique, c'est que tout ce temps où il va être avec eux, il va les restaurer, il va les encourager. Et au final, vous savez ce qui va se passer ? Ils vont retourner à Jérusalem. Ils vont retourner. Première clé. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que Jésus va dire, c'est la clé suivante. Il va leur poser une question. Cette question, vous l'avez dans le texte. Il posa la question. Je l'ai appelé inconnu. Hein. On se met à la place un petit peu des deux disciples d'Emmaüs. Et en particulier de Cléopas. Vous allez voir. Jésus va leur dire, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Et vous savez quoi? Cette question, elle est déconcertante. Je vous dis que dans ce texte, il y a plein de choses bizarres, mais ça, c'est une bizarrerie, vraiment. Et très honnêtement, je vois la réponse de Cléopas, mais je me dis, la réponse de Cléopas, c'est vraiment, c'est là qu'on sent que c'est un vrai disciple de Jésus. Parce que je ne sais pas si j'aurais répondu à Jésus de cette façon-là. Comprenez, comment quelqu'un qui a séjourné à Jérusalem a pu passer à côté des ténèbres, du tremblement de terre, des résurrections des morts, du voile déchiré? Et j'en passe. Le jour de la mort de Christ, il s'en est passé tellement à Jérusalem que c'est impossible de passer à côté. Et Jésus arrive, et il leur dit gentiment, « Hé les gars, de quoi vous entretenez-vous pour être aussi triste ?» Et je sens Cléopas qui... C'est du lard ou du cochon? Vous savez, il est en train de se moquer de moi ou... Et il lui répond ça, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ?» ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Mais de quelle planète tu sors? T'as pas entendu parler de Jésus? Et là, Cléopas vide son sac, dit tout ce qu'il a à dire. Et vous savez quoi? Jésus. Qu'est-ce que dit Jésus? Quoi? De quoi tu parles? C'est un vrai chrétien, vraiment. Et là, Cléopas lui explique. Il lui explique, il ouvre son cœur. Et il explique que Jésus était un homme puissant, en miracle et en parole, que le peuple l'aimait, mais que les magistrats et les principaux sacrificateurs en ont décidé autrement pour lui, qu'ils l'ont jugé, cloué sur la croix. Et il explique que nous avions mis tellement d'espérance en lui que maintenant tout est effondré. Et maintenant, voici trois jours que les choses se sont passées et nous voilà. Seulement, je vais vous dire, percevoir les choses de la part de Jésus de cette façon-là, c'est se tromper. Jésus ne se moque pas de nous. Jésus ne nous prend pas sur le ton de l'ironie. Souvent, j'ai lu des textes ou des commentaires amenant Jésus à penser que Jésus était ironique. Comprenez, ces hommes sont brisés. Quel est l'intérêt de Jésus de venir en rajouter? Quel est l'intérêt de Jésus de les humilier? Seulement, la problématique, et j'ai compris cette question de Jésus de la façon dont Cléopas l'a compris. Seulement, le problème, c'est notre perception de la question de Jésus est erronée. On n'a pas bien compris la question que Jésus pose. Et Cléopas n'a pas compris vraiment la question que Jésus pose parce que Jésus est dans un autre degré de compréhension quand il pose la question à Cléopas. Et je voudrais qu'on la revoie. Regardez bien. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Qu'est-ce que Jésus pose comme question en réalité? Il est en train de dire à Cléopas, mais de quoi êtes-vous en train, qu'est-ce que vous êtes en train de partager pour que vous soyez aussi triste? Jésus sait de quoi il parle, il le sait très bien, il sait de quoi, il sait de quoi. Mais Jésus est en train de mettre l'accent sur autre chose. Il est en train de dire à Cléopas, mais qu'est-ce que vous échangez? De quoi vous vous nourrissez spirituellement? De quoi vous vous entretenez mutuellement pour être aussi triste? Et là, la perception de la question de Jésus est complètement différente. Ce que Jésus a voulu dire en gros, et il pourrait nous la poser cette question ce matin, nous qui sommes peut-être sur le chemin d'Emmaüs, il nous pose cette question, de quoi es-tu en train de t'entretenir pour être aussi triste? Pour être aussi ravagé, pour être aussi découragé, pour être aussi déprimé, pour avoir autant le sentiment d'être abandonné de tous? Qu'est-ce qui nourrit? De quoi tu nourris ton cœur et ton âme? Parce que la véritable question que Jésus est en train de poser et nous pose ce matin, avec quoi nourris-tu ton âme? Avec quoi nourris-tu ta foi? Parce que lorsque nous marchons et nous prenons la décision de marcher à la suite de Christ, nous décidons non plus de marcher par la vue, mais nous décidons de marcher par la foi. Aussi, Jésus nous pose la question, avec quoi nourris-tu ta foi? Et Cléopas va le dire. Je nourris ma foi de ce que j'ai vu. Seulement Jésus lui dit, et reprenez le texte, la suite, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ô homme, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Jésus est en train de lui dire, mais il fallait te nourrir de ça pour comprendre ce que tu es en train de vivre. Parce que la réalité est que Jésus, lui, est en train de vivre la victoire. Et vous voyez, il y a comme un fossé entre ce que ces deux personnes vivent. Cléopas et son collègue sont dans le deuil. Jésus est en train de dire, j'ai remporté la victoire. J'ai vaincu le diable, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu la mort. Comprenez, sur la base de ce que nous nourrissons, nous pouvons vivre deux choses complètement opposées. Ils se nourrissaient de ce qu'ils ont vu. Ils se nourrissaient de leur désespoir. Et vous savez quoi? C'est comme un tourbillon. Ça vous emporte toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et Jésus leur dit, mais nourrissez-vous d'autre chose. Montez. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous des prophéties. Nourrissez-vous de ce que vous avez reçu. Nourrissez-vous de ce qui va vous élever, qui va nourrir votre foi. Parce que la marche de la foi, c'est aussi se nourrir des choses d'en haut. Quand l'opposition est dans nos vies, quand les combats sont là, quand tout s'effondre autour de nous. Tu es là, Seigneur. Tu l'as promis, tu es dans ma vie. Quand les choses s'effondrent autour de nous, tu es dans notre barque. Tu nous soulages, tu nous protèges, tu nous gardes, tu es avec nous, Père. Je ne craindrai ni la mort, ni l'enfer, ni les dominations. Qui me séparera de l'amour de Christ ? Dans les temps de difficulté, mes amis, si nous n'appliquons pas cette clé spirituelle, nous sombrons comme les disciples d'Emmaüs. Et vous savez quoi ? Ils vont sombrer, non pas parce que la circonstance les amène à sombrer, non, mais parce qu'ils se nourrissent de pensées qui les attirent vers le bas, parce que Jésus a remporté la victoire. Voyez la chose, le décalage monstrueux qu'il y a entre ce que les disciples d'Emmaüs et ce que Jésus est en train de vivre. Jésus, j'imagine Jésus le lendemain de sa résurrection en train de dire « c'est fait ». Et les disciples d'Emmaüs qui sont en train de dire « catastrophe ». Et je comprends la réaction de Jésus qui leur dit « mais ô homme sans intelligence, vous ne voyez pas que j'ai remporté la victoire ? Vous ne le voyez pas ? Et si vous continuez à vous nourrir de ce que vous avez vu, vous allez passer à côté de la plus grande victoire de l'humanité et de l'univers tout entier. Sur la simple base de ce dont ils se nourrissaient, ces hommes étaient en train de perdre pied spirituellement. Deuxième conseil de Jésus, deuxième clé spirituelle qui pourrait se résumer à une question, avec quoi nourris-tu ta foi ? Dernière clé. J'ai plus l'heure. La troisième clé, nous la trouvons dans ce texte, Luc 24, verset 32. Ils se dirent les uns aux autres, et nous sommes après le fait que Jésus s'est révélé à eux. Il a rompu le pain et leurs yeux s'ouvrent. Et là, ces deux hommes rentrent dans un échange. Ils disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ? Et lorsqu'il nous parlait en chemin et nous exhortait et nous parler des Écritures. Qu'est-ce que ces hommes sont en train de dire ? Ils sont en train de dire que leur cœur avait reconnu Jésus. Seulement, vous savez, il y a bien souvent un prédicateur qui disait la distance la plus longue, c'est celle qui est entre notre cœur et notre tête. Et puis en plus, j'ai une petite histoire. C'est une petite fille qui rentre de l'école du dimanche et qui explique à sa maman, « Maman, je sais comment le Seigneur il a créé l'homme et la femme. » Alors sa maman lui dit « Ah, magnifique ma chérie. » Alors elle explique « Mais alors Dieu, il crée l'homme et puis de la poussière, il le forme. Et puis il crée l'homme et puis l'homme, il se sent tout seul. Ah, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Et alors Dieu, il a pris le cerveau de l'homme et il en a fait la femme. » Je comprends Jésus quand il dit « Ô homme sans intelligence. » Mesdames, c'est aussi bon pour vous, un petit peu quand même. Ô homme sans intelligence, leur cœur avait compris, leur cœur avait discerné Christ, leur cœur brûlait au-dedans d'eux, seulement leur tête, elle ne suivait pas. Et finalement, la clé spirituelle que je voudrais vous laisser encore ce matin, c'est la suivante. Dieu veut nous aider, Dieu veut nous amener à réaliser que nous avons besoin de reconnaître sa voix dans la tempête. Par moments, spirituellement, mes frères et sœurs, alors que nous sommes dans la tempête et que nous ne voyons pas Christ parce que nous ne voulons pas le voir non plus ou que nous aimerions le voir se manifester d'une certaine façon, Jésus est quand même en train de nous parler. Par moments, il nous parle par les Écritures, par moments, il nous parle par des frères et sœurs, par moments, il nous parle par des exhortations, par moments, même il vous parle au travers du prédicateur. Vous savez, spirituellement, lorsque j'ai compris cette réalité, l'une des clés spirituelles pour notre marche par la foi, c'est de savoir discerner la voix de Christ dans la tempête. La marche de la foi, ce n'est pas toujours s'attendre à ce que Jésus apparaisse devant nous et nous explique les choses. La plupart du temps, dans la marche de la foi, Dieu vous parlera plus qu'il apparaîtra devant vos yeux. Et il faut le réaliser. Et maintenant, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, et je crois que c'est ce que Jésus voulait dire, enseigner à ses disciples, la marche de la foi passera par un travail de perception de la voix de Jésus dans la tempête. savoir entendre sa voix, être sensible, être à l'écoute, être en capacité de dire maintenant, Seigneur, parle-moi. Par moment dans la tempête, vous savez, on n'a pas forcément envie d'entendre ce que Christ a à nous dire. Parce que des fois, nous nous y sommes mis dans la tempête, comprenez ? Quand Jésus nous parle et nous dit quelque chose qui rentre en contradiction avec ce qu'on a envie d'entendre, alors ça ne vient pas de Dieu. Vous n'êtes pas comme moi, forcément. Mais vous savez, la vérité, c'est que c'est là que Dieu nous parle le plus dans la tempête. C'est là qu'il va parler le plus à ses hommes. Regardez. Lorsque Jésus va cheminer avec eux pendant près de 3 heures, entre 3 et 4 heures, qu'est-ce que Jésus va faire ? Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures en ce qui le concerne. Ils ont eu droit, ces deux hommes, à l'une des plus grandes révélations de l'humanité. Moi, je suis ébahi, parce que alors qu'ils pensent qu'ils ont un parfait inconnu, Jésus est en train de leur révéler les choses les plus profondes que l'humanité avait besoin d'entendre. Le plan du salut, depuis le début jusqu'à la fin, l'une des plus grandes prédications du Nouveau Testament, près de 3 heures de message, où Jésus leur explique, où le plus grand des enseignants leur explique la profondeur, le mystère caché des Écritures depuis le début des temps. Il y a quelque chose de fabuleux. Alors qu'ils pensent qu'un inconnu est en train de s'adresser à eux, Jésus est en train de déverser le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux des messages pour l'humanité, le plan du salut, du début des Écritures jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, ces hommes semblaient et avaient le sentiment d'être sur la route de la tristesse. Le chemin d'Emmaüs était le chemin du désespoir pour eux. Jésus est allé à leur rencontre et alors qu'ils avaient le sentiment que tout s'effondrait autour d'eux, ils ont eu droit à 3 heures de message particulier avec le meilleur des enseignants. Il y a peut-être beaucoup qui sont sur la route d'Emmaüs ce matin, en train de voir leur monde s'écrouler autour d'eux. Mon frère, ma sœur, ce temps est propice pour que le Maître vienne à ta rencontre et te parle. Parle à ton cœur. Peut-être tu n'auras même pas le sentiment que c'est Jésus qui est en train de parler, mais je peux te dire une chose, ces deux hommes n'avaient pas le sentiment que Jésus était en train de leur parler, pourtant c'est ce que Jésus a fait. Et c'est cette dimension spirituelle dans laquelle je voudrais t'amener à vivre. Quoi que tu vives en ce moment, quoi qu'il est en train de se passer dans ta vie, peut-être le sentiment de t'être éloigné de Dieu, ça tombe bien, eux aussi s'éloignaient de Dieu. Cela prouve bien que Jésus ne nous tourne pas le dos quand nous lui tournons le dos. Et que ses promesses demeurent même quand nous lui tournons le dos. Il reste avec nous, il nous rattrape. Et quand il nous rattrape, il nous soigne. Quand il nous rattrape, il parle à notre cœur. Il ranime le feu en nous. C'est peut-être ce que tu as besoin ce matin. Parce que sur le chemin d'Emmaüs, tu y es. Tu es en train de fuir, tu es en train de partir. Les circonstances sont là, t'ont accablé. Et tu cherches Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Et il veut parler à ton cœur. Il veut ranimer la flamme de ton cœur. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au plus profond de nous lorsqu'il nous enseignait, nous parlait des Écritures, nous révélait les choses concernant Christ. Ce matin, je voudrais faire un court appel. Je voudrais rappeler les 3 clés que je vous ai partagées ce matin. Vont apparaître. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours. N'en doute pas, quoi que tu vives aujourd'hui. Et rentre dans une démarche de foi, rentre dans la marche de la foi qui t'amène à quoi que tu vois, quoi que tu perçois, quoi que tes yeux t'amènent à penser, quoi que les circonstances puissent être, Jésus est avec toi. Quoi que tu puisses penser sur toi-même, quoi que tu puisses dire en disant même, mais je suis en train de m'éloigner, comment Jésus pourrait être avec moi ? Il est avec toi. Deuxième chose, deuxième clé, avec quoi entretenez-vous votre foi? Avec quoi es-tu en train de te nourrir spirituellement pour être en train de sombrer spirituellement corps et âme? Jésus te demande de relever le défi, celui de t'alimenter spirituellement avec les choses qui vont te ramener l'espérance dans ton cœur. Celui qui guérit est ici. Celui qui pardonne est ici. Celui qui console est ici. Celui qui relève est ici. Celui qui est venu pour les cœurs brisés est ici. Les promesses sont pour toi et sont encore pour toi. Quoique tu aies pu tourner le dos à sa personne, lui, il est avec toi sur la route. Troisième clé, reconnaître sa voix dans la tempête. C'est tellement merveilleux de réaliser que dans la tempête, c'est le meilleur moment pour que nous soyons propices à recevoir. Alors que ces hommes étaient effondrés, Jésus, tu as pris le temps de passer 3 à 4 heures avec eux, à marcher, à leur expliquer les Écritures, à leur révéler la portée du message de Christ, du Messie. Même pas les disciples, ils ont eu ça. Même pas les apôtres, ils ont eu ça. Ils ont dû se sentir privilégiés. Et en même temps, je me suis mis à la place de Cléopas quand il a réalisé qu'il a dit ce qu'il a dit à Jésus. Il a dû s'en vouloir. Ce matin, Jésus a rejoint la route d'Emmaüs, là où tu es. Et il va avoir un temps particulier avec toi. Un temps de restauration, un temps où il va parler à ton cœur, un temps où il veut te rappeler qu'il est présent à tes côtés. Un temps avec toi. Alors je voudrais qu'on baisse nos fronts, je voudrais avoir un court appel avec vous ce matin. Le temps ne nous permet pas de nous étaler, mais alors que le Saint-Esprit est au milieu de nous, la personne de Jésus est là ce matin. Il est à tes côtés sur la route d'Emmaüs. T'as cru qu'il n'était plus là, mais ce matin Dieu te rappelle qu'il y est bien. T'as cru qu'en lui tournant le dos, il allait t'abandonner. Non, il t'a suivi jusqu'à Emmaüs. À toi de réaliser ce matin que Jésus t'a accompagné jusqu'à Emmaüs pour que tu comprennes que tout ce temps où tu as marché, pleuré sur cette route, Jésus était là à tes côtés. Il a parlé à ton cœur, peut-être tu t'en es même pas rendu compte, mais il y a une semence qui a été déversée dans ta vie. Cette semence, il veut la faire germer en ton cœur. Il veut réchauffer ton cœur. Et comme ses disciples, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous enseignait les Écritures, la parole, les prophéties? Il veut ranimer le feu dans ton cœur ce matin. Alors, où que tu puisses être, quoi que tu puisses penser, quelle que soit ta circonstance ce matin, Jésus était sur la route d'Emmaüs pour amener ces hommes à marcher sur le chemin de la foi. Dieu est en train de transformer ton chemin de tristesse en chemin de joie. Dieu est en train de changer ton chemin où tu t'es entretenu de pensées négatives, de ce que ta vue a pu projeter, pour le transformer en chemin de foi, basé sur les promesses, basé sur les convictions que Dieu va déposer sur ton cœur. Il veut changer ton environnement. Il veut t'amener à voir la victoire là où tu vois la défaite. Il veut t'amener à réaliser qu'il est puissant pour changer encore aujourd'hui ton environnement, au point de sauter de joie sur la route d'Emmaüs, parce que Jésus s'est révélé à toi. Ce matin, c'est plus une prise de position de foi que j'aimerais t'inviter à faire. La première, celle de dire et d'être convaincu maintenant que Jésus est avec toi sur le chemin d'Emmaüs. La deuxième, c'est celle de dire, de ne plus te nourrir ta foi de choses qui vont t'enterrer avec elle. Tu prends position et tu refuses que ce que tes yeux t'amènent à voir soit ce qui va te clouer au sol. Parce que Jésus te pose la question, avec quoi entretiens-tu ta foi ce matin? Pour être si triste, pour être si découragé, pour être si déprimé, alors que j'ai remporté la victoire dans ta vie. dernière clé. Dieu veut que tu développes ton écoute. Parce que comme il a parlé aux disciples d'Emmaüs, sans qu'ils s'en rendent compte, Dieu est en train de te parler, mon frère, ma sœur. C'est une parole pour ta vie. Dieu est en train de te parler. Tu as le sentiment que c'est tout autre chose, mais Dieu est en train de te parler. Écoute sa voix. Au nom de Jésus. Alors ce matin, si tu es sur le chemin d'Emmaüs, lève-toi. Et je veux prier avec toi. Je veux que l'Église prie avec nous. Si tu es sur ce chemin, tu as plein de raisons d'y être. Parce que les circonstances t'ont amené à y être. Parce que tu as décidé de retourner à Emmaüs. Alors que Dieu t'appelle à être à Jérusalem. Ce matin, l'appel de Dieu est sur ta vie pour te dire, maintenant, saisis que je suis avec toi, saisis que je suis en train de te parler. Arrête de te nourrir de choses qui te tireront vers le bas et rentre dans la marche de la foi. Voici l'appel. Rentre dans la décision de marcher selon la foi. Tu n'es plus appelé à marcher selon la vue. Tu t'y as attendu. Tu as attendu encore que les choses se révèlent selon ta façon de voir. Mais Dieu te dit maintenant que tu es un disciple et qu'il veut t'amener dans une autre dimension spirituelle, celle de marcher par la foi. C'est une prise de position que tu dois prendre ce matin. Saisir les trois clés pour avancer avec Christ. Alléluia. Vous l'avez bien compris tous ensemble. Alléluia, Jésus. Esprit de Dieu, Jésus-Christ, ce matin, tu prends le temps. Tu assures une transition dans nos vies. Une transition avec amour, une transition avec bonté, la transition de nous prendre par la main, de nous accompagner sur le chemin d'Emmaüs. Tu nous dis maintenant, ta foi, elle va dépendre non plus de ce que tu vois, mais de ce que tu as entendu. Ta foi ne va plus dépendre des circonstances autour de toi, mais elle va dépendre de ce que j'aurai à te dire dans la tempête. Elle va dépendre de ce que tu vas bien vouloir recevoir, de cette position de foi qui t'invite à dire « Jésus est à mes côtés. Quoi que je puisse ressentir, quoi que je puisse voir, tu es là. » Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, je prie pour qu'ils atteignent Emmaüs. Et le point d'Emmaüs, c'est le point où leurs yeux vont s'ouvrir, où leurs yeux spirituels vont s'ouvrir et réaliser que Jésus a marché avec eux. Ouvre les yeux ce matin de ceux qui sont sur le chemin d'Emmaüs et qui ne voient rien. Ouvre leur cœur, leur perception pour comprendre que tu es en train d'échanger, de partager avec eux, pour qu'alors qu'ils sont à Emmaüs, tu les fasses revenir dans la maison de l'Éternel. Pour qu'alors qu'ils sont encore à Emmaüs, ils prennent la décision à l'heure même de rentrer sur Jérusalem. Seigneur, dans la vie de mes frères et sœurs, ma prière est la suivante. Que la marche de la foi s'enclenche et que les victoires tombent. Que l'ennemi tombe et que mes frères et sœurs rentrent dans la destinée que tu leur as réservée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais des hommes et des femmes de foi au milieu de nous.